Radio Classique, les spécialistes.
7h39 sur Radio Classique, une double actualité internationale à commenter ce matin. Les élections en Turquie avec une présidentielle extrêmement serrée et une visite surprise hier, celle de Volodymyr Zelensky en France. Un dîner avec Emmanuel Macron, avec une demande expresse du président ukrainien, toujours plus d'armes pour son pays. Bonjour Frédéric Ancel.
Bonjour.
Maître de conférence à Sciences Po Paris, auteur des Voix de la puissance, penser la géopolitique au XXIe siècle aux éditions d'Il Jacob, mais également des petites leçons de diplomatie aux éditions Autrement. Je vais débuter cette double actualité internationale avec Volodymyr Zelensky, le président ukrainien à Paris, après Rome et après Berlin. L'objectif, c'est toujours le même, toujours plus d'armes pour l'Ukraine?
Oui, c'est toujours plus d'armes, mais c'est toujours plus de soutien politique aussi. Je vous dis ça parce que en Ukraine, la France est considérée comme un ventre mou au sein des amis et des alliés européens. Il y a eu un certain nombre de déclarations depuis presque 15 mois de guerre maintenant présidentielles qui ont passablement irrité les Ukrainiens et d'ailleurs les alliés est-européens. Et par conséquent, lorsque Zelensky vient à Paris, c'est toujours un peu particulier. D'abord parce que c'est quand même encore la première puissance militaire de l'Union européenne, ce n'est pas rien. C'est le seul membre permanent du Conseil de sécurité de cette même Union européenne. Et puis, encore une fois, donc j'insiste, jusqu'à présent, aux yeux des Ukrainiens, Paris n'a pas été à la hauteur. Donc je dirais que c'était dans ce contexte-là que s'inscrivait cette nouvelle visite de Zelensky à Paris.
Visite à Rome, visite à Berlin, puis Paris. Volodymyr Zelensky ne pouvait pas ne pas rencontrer Emmanuel Macron après avoir été reçu par Olaf Scholz, en quelque sorte.
Oui, bien sûr, parce que encore une fois, la première puissance économique de cette union, c'est évidemment l'Allemagne. On a entendu d'ailleurs la petite boutade extrêmement drôle de Zelensky disant encore quelques visites ici, puis ça ira très bien après la promesse allemande d'un don très important de plusieurs milliards d'euros. Mais Paris, c'est a priori encore aujourd'hui le pôle politique qui est incontournable. J'ajoute un point important, si vous permettez. L'Italie, c'était pas négligeable, notamment parce que l'extrême droite en Europe de manière générale, mais en Italie plus particulièrement ces derniers mois, n'était quand même pas considérée comme la plus favorable à l'Ukraine.
Ouais.
Donc il s'agissait donc d'amélioration à ceux qui considéraient qu'il n'y avait rien à faire avec Madame Meloni, qui du coup a effectivement changé de braquet en faveur de l'Ukraine.
Frédéric Ancel, des chars, des missiles, c'est sûr, toujours pas d'avions. Est-ce que Zelensky en a remis, pardonnez-moi l'expression un peu populaire, mais en a remis une petite couche auprès des dirigeants européens?
Oui, mais pour l'instant sans succès, parce qu'on considère encore en Europe et d'ailleurs aux États-Unis qu'il s'agit là de l'arme pénétrante, de l'arme stratégique par définition, ce qui n'est pas faux. C'est-à-dire que si vous donnez à l'Ukraine des chasseurs-bombardiers, ça permettra à l'Ukraine un saut qualitatif qui risque d'atteindre en quelque sorte la fameuse ligne rouge ou le risque de co-belligérance aux yeux des Occidentaux. Je ne dis pas que ça serait forcément le cas, on n'en sait rien. Parce qu'en fait, cette co-belligérance, ce sera finalement à Monsieur Poutine de considérer que, oui ou non, elle est atteinte. Mais jusqu'à présent, on a rechigné très fortement sur les chasseurs-bombardiers et on continue. Donc pour l'instant, Monsieur Zelensky n'a pas réussi à obtenir cette manne, en quelque sorte, cette arme qui pourrait être décisive.
Alors, cette contre-offensive, on en parle beaucoup du côté de l'Ukraine. C'est pour vous une question de jours ?
C'est surtout une question politique très intéressante. Je vais vous dire franchement, si cette contre-offensive, elle n'a pas lieu, je pense qu'elle aura lieu. Mais même si elle n'avait pas lieu, de toute façon, le fait qu'on en parle, vous et moi ce matin, et qu'on en parle pratiquement dans le monde entier, en tout cas en Occident, et sans aucun doute en Russie, notamment dans les tranchées des soldats russes, sans discontinuer depuis plusieurs mois, c'est déjà un fait militaire intéressant et un fait politique tout à fait passionnant. Je veux dire par là que démonstration de force vaut force. Si aujourd'hui vous êtes soldat russe dans votre tranchée, vous tremblez parce que tous les jours, vous entendez qu'il va y avoir cette fameuse grande contre-offensive. Alors encore une fois, je ne dis pas que c'est que de la propagande, on verra bien, mais je pense sans doute qu'elle aura lieu puisque qualitativement et quantitativement, l'armée ukrainienne évidemment se renforce mois après mois. Mais le simple fait d'avoir réussi à faire passer cela comme cette perspective, comme une actualité brûlante, c'est déjà un point marqué par Zelensky.
Frédéric Ancel, venons-en à la seconde grande actualité internationale, ce sont ces élections en Turquie, les législatives et puis la présidentielle. Il y aura un second tour, les scores sont très serrés, 49,35% des voix pour Erdogan, 45% pour Kemal Kılıçdaroğlu et un peu plus de 5% pour le troisième candidat. Un second tour, c'est déjà une surprise en quelque sorte?
Alors, c'est une semi-surprise. Il est vrai que jusqu'à présent, le président Erdogan, jusqu'à présent, c'est-à-dire depuis 2003 qu'il est au pouvoir, hein, donc c'est très considérable, avait pratiquement survolé l'intégralité de la classe politique turque, qui par ailleurs est relativement médiocre. Et donc, effectivement, pour lui, ça ne peut pas être considéré comme une grande victoire, puisqu'à plusieurs reprises, il l'a emporté dès le premier tour. Cela dit, d'abord, il est très très proche du seuil critique qui lui aurait permis d'être président dès hier soir.
Oui.
Et puis, par ailleurs, les législatives, s'acheminer à ce niveau-là vers une victoire. Autrement dit, ça confirme quand même que les couches traditionnelles en Turquie, que la population d'Anatolie, et pas seulement celle qu'on nous présente régulièrement, c'est-à-dire la jeunesse d'Istanbul et d'Ankara, manifestement reste quand même très attaché à un président islamo-nationaliste très, très ferme, très intransigeant.
Dans votre nouveau livre, Un petite leçon de diplomatie aux éditions Autrement, vous indiquez qu'il ne faut jamais mésestimer les autres. Est-ce qu'Erdogan n'a pas trop pris au sérieux l'opposition, et notamment Kemal Kılıçdaroğlu? Pas assez.
Plutôt pas assez. Et en même temps, Erdogan a tout fait quand même ces dernières années, ces derniers mois en particulier, notamment en termes de mesures archipopulistes, pour être sûr de l'emporter. Donc il n'est pas impossible de dire aujourd'hui que finalement tout ça, quelque part, a marché. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je le dis d'un mot, en face, on n'a pas un adversaire à sa mesure sur le plan politicien,
oui,
sur le plan de la fonction tribunicienne, comme on dit en sens politique. C'est qu'Erdogan est quand même un animal politique absolument redoutable.
Balotage donc favorable, hein, si je vous comprends bien, pour le président sortant. Est-ce qu'on a aujourd'hui une Turquie coupée en deux tout de même?
C'est une Turquie coupée en deux, comme le sont absolument tous les systèmes crypto ou réellement démocratiques, notamment lorsqu'il s'agit d'une élection présidentielle. Et franchement, si vous pouvez me donner l'exemple d'une élection présidentielle qui s'achève par 90% du suffrage disponible pour l'un et 10% pour l'autre, vous m'avertissez. Si vous voulez, on a raison de dire que telle ou telle population, telle ou telle opinion publique est plus ou moins coupée en deux. Mais franchement, dans ce type d'élection, c'est à peu près évident.
Ouais.
Alors, c'est vrai que vous allez me dire, oui, mais là, on est très très proche du seuil de 50%. Donc, oui, effectivement, on a une Turquie plutôt plus libérale, je dis bien plutôt, parce qu'on a aussi des nationalistes intransigeants qui sont aujourd'hui dans la coalition contre Erdogan. Hein. Donc vous avez, si vous voulez, des éléments de politique partisane interne, une tambouille interne, si vous me passez l'expression, à la Turquie, qu'on pourrait difficilement expliquer en termes de sciences politiques. Mais on a là, effectivement, une Turquie coupée en deux, pas nécessairement une super laïque, super libérale, super pro-européenne, et l'autre qui serait intégralement nationaliste et conservatrice. C'est plus compliqué, je pense.
C'est plus subtil que cela. Merci Frédéric Ancel d'avoir été ce matin dans Les Spécialistes. Frédéric Ancel, docteur en géopolitique, auteur de Petites leçons de diplomatie aux éditions Autrement. Dans un instant, nous allons retrouver Marc Bourreau et son journal imprévisible. Marc qui revient ce matin sur une très célèbre prise d'otage. Tiens, petit indice, c'était il y a 30 ans et ça se passait à Neuilly-sur-Seine. Je pense que vous commencez à avoir une petite idée. Il est 7h48 sur Radio Classique.